Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine comme tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, mais également graphite.net, le site internet qui vous permet également de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Donc n'hésitez pas et vous pouvez suivre bien sûr l'actualité de Graphite sur la page Facebook notamment, pour vous tenir informé de l'actualité de votre radio, notamment pour ce mois de juin. Nous sommes le 5 juin, journée mondiale de l'environnement instaurée par l'ONU. Voilà, donc il n'y a qu'aujourd'hui. Voilà, on consacre aujourd'hui à l'environnement, puis le reste de l'année, on fait autre chose, évidemment. Le 5 juin 1969, le Tupolev passe le mur du son en 69. Naissance le 5 juin 1656 de Joseph Piton de Tournefort. C'est un botaniste français. Il rédige le premier traité connu qui mentionne la culture du champignon de Paris en 1707. Joseph Piton de Tournefort. Je n'ai pas l'impression que c'est un nom qui est évoqué. Je ne sais même pas, je n'ai pas regardé s'il y avait une rue de Paris qui célébrait un petit peu ce botaniste français. Mais en tout cas, voilà, il est né un 5 juin 1656. Décès le 5 juin 1984, donc plus près de nous, du zoologiste britannique Sir Frederick Stratton Russell. Il étudie le plancton et sa migration et il décrit de nombreuses espèces de méduses. Il est l'un des premiers à s'intéresser aux méthodes d'évaluation de ce qu'on appelle les stocks halieustiques. C'est la partie exploitable d'une population de poissons et il propose de réguler les efforts de pêche. Il fait paraître plus de 150 publications scientifiques. Sir Frederick Stratton Russell, qui est donc décédé un 5 juin 1984. Voilà, au moins deux scientifiques que l'on met à l'honneur grâce à cette éphéméride. Voilà, des noms qui ne nous évoquent pas nécessairement beaucoup de choses, mais en tout cas, leurs œuvres sont pour certaines passées à la postérité, bien sûr. Allez, je vous emmène en voyage. Il va falloir maintenant commencer à penser aux vacances de l'été, évidemment. Et nous allons parler de ce premier vol habité qui va être prévu le 20 juillet prochain. Alors, c'était un petit peu tard pour pouvoir s'inscrire parce qu'il y a eu des enchères qui ont été menées. Alors, il y a 60 ans, Alan Shepard devenait le premier Américain dans l'espace lors d'un vol parabolique à bord de la capsule Mercury. C'était 23 jours après le premier vol orbital du soviétique Yuri Gagarin. On avait fêté les 60 ans, effectivement, de cela. C'était il y a quelques mois. C'était en avril, il me semble. Et donc, les Américains se limitaient à une brève incursion dans l'espace de quelques minutes, avec justement un retard un petit peu technologique des Américains sur les Soviétiques, qui était à l'époque assez énorme, bien sûr, mais en tout cas, c'était Alan Shepard qui était le premier Américain dans l'espace. 60 ans plus tard, donc aujourd'hui, eh bien, Blue Origin, dont le véhicule suborbital est nommé justement Alan Shepard en l'honneur de ce vol historique, eh bien, Blue Origin annonce un premier vol avec des passagers le 20 juillet prochain. À cette date, le New Shepard transportera un équipage de plusieurs passagers, dont tous seront nommés astronautes au retour de leur vol qui réalisera une brève incursion dans l'espace, mais à une altitude un peu moins élevée, environ 100 km. Et pour ce premier vol habité, pour marquer le coup, Jeff Bezos, le patron de Blue Origin, a lancé une vente aux enchères pour devenir le premier touriste spatial à bord du New Shepard. C'est ce que souligne le communiqué de la firme. Alors, à partir d'aujourd'hui, tout un chacun peut placer une enchère, pouvait placer une enchère sur le site internet de Blue Origin et donc essayer de gagner une place à bord de ce vol historique. Donc, une vente aux enchères inédite qui s'est déroulée en trois phases. Le montant de l'enchère gagnante sera intégralement reversé à la fondation de Blue Origin, qui est donc créée par la société de Jeff Bezos pour intéresser les jeunes à l'espace et aux sciences. Donc ces trois phases, eh bien, c'était les enchères en ligne entre le 5 et le 19 mai. À partir du 19 mai, les enchères en ligne ne seront plus scellées, elles deviennent visibles, de sorte que tous les participants pourront surenchérir à leur guise. Et enfin, le 12 juin, c'est la fin des enchères, donc la semaine prochaine. Tout au long de la journée, les enchères seront en direct. Alors, comme le rappelle Blue Origin, au cours des décennies qui ont suivi les deux événements, initiaux de Shepard et Gagarine, eh bien, moins de 600 astronautes se sont rendus dans l'espace. Ils disent tous que cette expérience, bien sûr, les a changés, évidemment, et à ne pas en douter, la très petite expérience spatiale. Petite en durée, parce que ça va durer que quelques minutes, et en altitude, parce que voilà, c'est à peu près une centaine de kilomètres. Il n'empêche que cette expérience changera votre vision du monde, c'est ce que indique ce communiqué. Alors, le fait que le communiqué de Blue Origin précise quelles frontières compte franchir le New Shepard pour accéder à l'espace n'est évidemment pas anodin. Il faut savoir justement que le Spaceship 2 de Virgin Galactic, dont le service touristique devrait ouvrir dans le courant de l'année également, tient compte d'une autre frontière, celle à 80 km d'altitude, reconnue par différentes institutions, dont la NASA. Et donc aux États-Unis, le franchissement de cette frontière permet d'obtenir les fameuses ailes, entre guillemets, c'est-à-dire l'insigne américain décerné aux astronautes. Donc là, vous dépassez cette limite et vous avez cette récompense et ce titre également assez honorifique. Alors forcément, voler une vingtaine de kilomètres plus haut, c'est forcément mieux, bien sûr. Et donc Jeff Bezos ne se prive pas de rappeler que les vols à bord de son concurrent Virgin Galactic auront toujours un astérix, car ils n'atteignent pas cette limite de 100 km d'altitude. Pour rappel, il existe au moins 3 frontières dans l'espace. 2 ont été fixées arbitrairement, et à ceux qui s'étonnent pourquoi il n'y a pas une seule frontière, eh bien, il faut savoir que l'atmosphère terrestre ne disparaît tout simplement pas. Elle devient de plus en plus fine et elle s'étend bien au-delà de la Lune. Donc du coup, on n'a pas une frontière, on va dire, physique bien délimitée. Et donc, on a arbitrairement mis plusieurs limites. Et donc, du coup, c'est un petit peu celui qui va aller le plus loin. Mais en tout cas, le premier vol habité du New Shepard aura lieu le 20 juillet. Alors, nous serons, nous, personnellement, en congé fermé. Il n'y aura pas d'émission biotine pendant ce mois de juillet. Mais bien sûr, je vous invite à suivre cette actualité pendant ce mois de juillet. Et puis, à la rentrée de septembre, on fera, je n'en doute pas, un point, bien sûr, sur ce vol de touristes spatiales. Voilà, on ne sait pas où aller en vacances. Eh bien, peut-être qu'on irait faire un petit tour là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Until I Die, c'était The Delano Orchestra sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On parle d'espace et on parle de choses un petit peu plus terre à terre. Et on va parler aussi de vêtements. Et de vêtements qui grandissent tout seuls. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une annonce assez récente qui a été communiquée il y a quelques jours. Et je trouve cet article assez intéressant parce que c'est un sujet qu'on n'évoque pas souvent. Alors, on part au départ d'une imprimante 3D. On prend un petit peu de cellulose bactérienne. On prend des algues également. Et on arrive à construire un matériau vivant qui va se créer tout seul. Enfin, presque. Hein. Les recettes pour des matériaux qu'on appelle vivants parce qu'on les fabrique en utilisant donc des cellules biologiques vivantes dans une matrice, eh bien ces recettes ont fleuri ces dernières années. Récemment, il y a des chercheurs qui ont rapporté une technique de bio-impression qui a pu déboucher sur une matière aux propriétés remarquables. Et ces scientifiques, ils ont enfermé des algues, des micro-algues dans un produit qui est excrété par des bactéries. Alors on appelle ça de la cellulose bactérienne. Et en fait, ces micro-algues confèrent des capacités photosynthétiques à l'étoffe qu'on a ainsi obtenue, ce qui lui permet notamment de pouvoir se régénérer. Et donc, les auteurs de cette étude précisent justement que cela permet de survivre de manière stable pendant au moins 3 jours sans nutriments, sa durée de vie pouvant être prolongée si elle est transférée vers une nouvelle source de nutriments durant cette période. Et donc, pour la première fois, cette espèce de matériau photosynthétique semble assez performant pour être déployé dans des applications du monde réel. C'est ce qu'explique notamment Anne Meyer, biologiste américaine, qui a donc participé à cette étude. Il est résistant, il est tenace, il est flexible, il est robuste, il a donc tout pour plaire. On peut le déformer d'une façon ou d'une autre, et bien il conserve son intégrité physique. Les chercheurs lui attribuent au moins 3 applications principales: la création de feuilles artificielles, la création de vêtements biologiques et la création de peau photosynthétique. Alors, les feuilles artificielles, l'idée, c'est d'imiter le principe de la photosynthèse des feuilles végétales, c'est-à-dire que on peut convertir l'eau et le CO2 en oxygène et en énergie, tout ça grâce à la lumière du soleil. C'est le principe de la photosynthèse. Et donc, cette innovation fait partie des solutions envisagées pour produire de l'énergie et de l'oxygène dans des endroits qui ne sont pas vraiment propices à la végétation. Et là, on pense notamment à Mars. En parallèle, je vous ai parlé de peau également synthétique qui pourrait notamment servir pour les greffes de peau. Anne Meyer explique que l'oxygène qu'on va ainsi pouvoir produire, eh bien, va aider à relancer la cicatrisation de la zone endommagée. On pourrait être capable de réaliser une cicatrisation activée par la lumière, dit-elle. Donc, s'il y a une peau un peu endommagée, des plaies, eh bien, on pourrait justement améliorer cette cicatrisation grâce justement à cette peau photosynthétique. Donc, ce matériau pourrait aussi révolutionner le secteur du textile. Hein, je vous ai parlé de vêtements biologiques. Donc, ça va révolutionner le secteur de la mode, hein, parce que les vêtements créés seraient biodégradables et seraient également évolutifs. C'est-à-dire, en clair, vous avez un pantalon troué qui pourrait se régénérer. Un pantalon trop petit pourrait aussi s'agrandir. Et alors, pour l'instant, c'est encore hypothétique, mais en tout cas, ça enlèverait une épine du pied de cette industrie du vêtement qui est considérée comme l'industrie l'une des plus polluantes de la planète. Et donc, ces matériaux peuvent se maintenir sur des périodes de plusieurs semaines et être multipliés sur place, de sorte qu'ils ont le potentiel d'être vraiment durables et partagés partout dans le monde aussi facilement que le levain, c'est ce qu'explique Anne Meyer. Mais voilà, on a donc un nouveau matériau vivant qui a la capacité de pouvoir se régénérer, la capacité de pouvoir grandir en se nourrissant, et donc notamment en se nourrissant du soleil, de la lumière. Et donc voilà, on aurait des applications. Alors ça reste pour l'instant à l'état de prototype, même d'hypothèse, mais en tout cas, on considère qu'il y a des avancées assez intéressantes au niveau des vêtements, au niveau des greffes de peau et au niveau aussi de ces dispositifs qui nous permettraient de produire l'énergie et de l'oxygène dans un environnement qui ne permet pas d'avoir des végétaux. Donc, on pense notamment à Mars. C'est annoncé voilà, il y a quelques semaines, mais ça risque peut-être d'avoir des débouchés assez intéressants, bien sûr. Donc, on regardera ça d'un peu plus près, bien évidemment. Autre chose, on va parler d'or. les gisements d'or. Alors, la question, c'est de savoir comment ils se forment dans la croûte terrestre, parce que en général, on trouve pas plus d'un milligramme d'or par tonne de roche. Donc, un milligramme d'or par tonne de roche, d'une façon générale, c'est pas beaucoup, évidemment. Alors, dans les gisements qu'on appelle les gisements aurifères, la concentration en or est 1000 à 1 million de fois plus élevée. OK, d'accord. L'or étant peu soluble dans les fluides, dans les magmas, eh bien, un tel niveau de concentration ne peut s'expliquer uniquement par la phase, justement, la phase assez générale et assez naturelle. Et on essaye d'avoir un petit peu des informations supplémentaires. Il y a une grande partie de l'or retrouvée dans les gisements qui n'est pas exploitée parce qu'elle reste cachée dans des minéraux tels que la pyrite ou l'arsénopyrite. Cet or n'est pas exploitable par des méthodes de détection et d'extraction traditionnelles, mais qui ont pour objectif de pouvoir récupérer l'or à l'état natif, de l'or pur, entre guillemets. C'est pas possible. Alors, quelle est la nature de cet or un peu invisible, et quel phénomène est responsable de sa concentration dans certaines régions et notamment dans ces gisements? Eh bien, une équipe de recherche internationale a récemment étudié ce cas et a essayé d'élucider cette énigme. Et pour cela, ils ont analysé en utilisant des technologies un petit peu spécifiques. Alors, c'est un petit peu barbare, hein, c'est de la spectroscopie d'absorption de rayons X sur haute résolution sur synchrotron. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre cela par cœur, mais en tout cas, ils ont utilisé des technologies qui permettent de pouvoir avoir des informations sur ces fameux minéraux de pyrite ou d'arsénopyrite pour essayer justement d'avoir la possibilité de pouvoir les synthétiser en laboratoire et de mieux comprendre pourquoi on arrive à avoir des gisements d'or un petit peu plus importants dans ces roches assez spécifiques. Les données ont été obtenues, elles ont été interprétées et ça a permis justement d'identifier l'état chimique et structural de cet or qui est incorporé mais qu'on ne peut pas nécessairement extraire de façon simple. Les résultats montrent que l'or s'incorpore dans ces minéraux uniquement lorsqu'il se lie à l'arsenic. Et du coup, il y a une réaction qui est provoquée par la rencontre entre un fluide, justement d'un côté le minéral, qui va former un petit peu ce qu'on va appeler des clusters atomiques. Alors, le mot cluster, depuis les derniers, prend une connotation assez importante, mais en tout cas, c'est l'idée de pouvoir réunir les conditions nécessaires et les composants pour pouvoir parvenir à avoir ces composés qu'on n'a pas d'une façon totalement évidente partout dans le monde. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc toute une recherche qui a été menée, parce que l'idée derrière, c'est pas storé, c'est d'essayer d'améliorer un petit peu le traitement des minerais, c'est-à-dire d'améliorer le rendement, c'est-à-dire d'avoir justement une extraction massive de l'or. Vous avez bien compris que derrière, il y avait bien sûr des visées un petit peu, on va dire, financières, assez peu cachées. On a bien compris derrière quel était l'intérêt. Donc du coup, on arrive à essayer de découvrir quelle façon nous permettrait de pouvoir extraire cet or qui, par les méthodes traditionnelles, n'est pas possible de le faire. Et bien là, on essaye de trouver des technologies pour améliorer justement l'extraction de cet or. Une extraction massive, nous dit-on. Et du coup, voilà, il y a eu des équipes qui ont travaillé là-dessus. Ce qui est assez étonnant, c'est que on a des articles qui en parlent. On a un petit peu l'impression justement qu'on n'aurait pas cru avoir une communication sur ce genre de sujet. Et en fait, si, justement, ça permet justement de voir aussi que certains sont en avance, parce que derrière, il y a aussi quelque part une guerre de communication, bien évidemment. Et donc là, on a quelques informations. Alors, comme ce sont des technologies assez particulières, on ne va pas s'étendre là-dessus dans cette émission. Mais en fait, on ne s'étend pas non plus nécessairement dans les articles. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus donner toutes les ficelles pour pouvoir être rattrapé par d'autres qui pourraient utiliser les mêmes méthodes. Donc du coup, on reste, je ne dirais pas assez flou, mais en tout cas, on ne donne pas tous les éléments. On dit juste qu'on est en train de réussir à pouvoir extraire cet or d'une façon beaucoup plus efficace que ça l'est par des méthodes traditionnelles. On n'en sait pas plus. Comme ça, on ne peut pas le récupérer, la méthode, la recette, pour la faire chez nous. Mais c'est aussi, voilà, il y a aussi toujours intéressant de lire entre les lignes ce genre d'article, parce qu'on voit derrière un petit peu toutes les batailles qu'il peut y avoir. Parce que là, vous avez bien compris qu'il y a quand même une notion d'argent qui est assez conséquente, bien sûr. C'est comme tout, de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est comme ça que ça se passe. C'était Centenaire, pardon, avec Will Charles sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Il y a deux petits sujets intéressants que je voulais évoquer. L'un, on va dire, un peu anecdotique, l'autre un petit peu plus important. Le premier anecdotique, c'est peut-être la possibilité de pouvoir changer la couleur de notre voiture ou un petit peu le design de la coque de notre smartphone en un clin d'œil. Est-ce que ça serait possible ? Eh bien, apparemment, oui. En tout cas, c'est ce qu'annoncent des chercheurs du fameux MIT, le fameux Institut de technologie du Massachusetts aux États-Unis, qui nous offre aujourd'hui la possibilité peut-être de le faire. Ils ont mis au point un système baptisé Chromo Update qui est basé sur un colorant qui est activé par la lumière et avec un projecteur de lumière ultraviolette, donc les fameux UV. Alors, ils avaient déjà présenté un système un petit peu comparable par le passé qui s'appelait le photochroméléon. C'était une encre qui comprenait des colorants, alors cyan, magenta et jaune, ce sont les trois couleurs primaires, qu'on appliquait sur un support et on soumettait cette encre à une lumière UV. Les colorants se voyaient totalement saturés et ils pouvaient ensuite être sélectivement désaturé pour essayer de créer l'image souhaitée, et cela grâce à un projecteur de lumière visible cette fois. Mais le processus était jugé trop lent à l'époque. Et donc là, on a un nouveau système, une évolution qui est nommée Chromo Update. Donc l'idée, c'est d'utiliser un projecteur UV qui permet de faire varier les niveaux de lumière sur la surface. L'idée, eh bien, c'est de permettre de contrôler les niveaux de saturation des pixels pour suivre le modèle souhaité et donc de créer un aperçu en noir et blanc d'un dessin en quelques secondes seulement. Et si on veut un prototype couleur, il faut uniquement quelques minutes. C'est une rapidité d'exécution qui permet d'imaginer, de tester facilement des designs. La manière dont ils apparaissent lorsque le soleil brille dessus ou lorsqu'il passe à l'ombre, ou même essayer de concevoir une tasse de café sur laquelle on pourrait imprimer, par exemple, notre emploi du temps chaque matin. Effectivement, il y a des technologies qui nous sont totalement indispensables. En tout cas, les chercheurs du MIT travaillent déjà à des améliorations. Pour l'heure, leur encre n'est adaptée qu'aux surfaces lisses. Donc, ils espèrent réussir bientôt à atteindre des tissus et comme ça, pouvoir produire des vêtements reprogrammables qui pourraient ainsi changer de couleur à la lumière. Mon Dieu, je suis un peu curieux de voir ce que cela va donner, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça nous vient du Massachusetts. Autre sujet, et là, c'est un autre défi qui nous attend également d'un point de vue technologique, c'est le défi de la transition énergétique. C'est un vrai débat, parce que tout ça est lié également au développement durable, au réchauffement climatique, et cette transition énergétique pose le sujet de l'utilisation des énergies renouvelables qui sont pour l'instant pas totalement optimales parce que intermittentes, c'est-à-dire qu'en clair, les panneaux photovoltaïques vont produire l'électricité que s'il y a du soleil, donc la nuit ça ne fonctionne pas. Les éoliennes vont produire l'électricité que s'il y a du vent. S'il n'y a pas assez de vent ou s'il y en a trop, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on est quand même toujours sur des solutions qui sont certes renouvelables, mais qui ne sont pas totalement optimales. Et l'une des solutions qui fonctionne en termes de d'absence d'émissions de dioxyde de carbone, c'est le nucléaire. C'est-à-dire que du coup, le nucléaire n'émet pas de CO2. Il y a d'autres problématiques, évidemment, mais en tout cas, d'un point de vue du réchauffement climatique, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire a toute sa place, justement, pour pouvoir combattre cela. Eh bien, on développe de plus en plus, on en a parlé il y a déjà quelques temps dans cette émission, et on revient avec cet article qui explique qu'il y a des solutions nucléaires à petite échelle qui existent maintenant. C'était à l'état de prototype et maintenant ça se développe. L'idée, c'est de produire l'électricité de l'hydrogène pour des sites qui sont soit limités en taille ou surtout pour des sites un peu isolés. Et on parle donc de réacteurs nucléaires modulaires, ce qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactor. Les SMR, ça va être un terme que l'on va très souvent entendre parler bientôt, parce que l'idée, c'est qu'ils représentent une alternative plus économique et plus écologique aux réacteurs nucléaires conventionnels. Le développement de ces petits réacteurs nucléaires modulaires pourrait par exemple permettre d'offrir de l'électricité décarbonée à des sites, comme je vous l'ai dit, géographiquement un peu isolés. On peut penser à des îles, on peut penser aussi à des navires, à des bases nautiques. Et l'idée, c'est aussi d'alimenter en électricité propre des endroits qui jusqu'alors profitent d'une énergie produite à base de combustibles fossiles. Et donc ces fameux SMR disposent d'une puissance qui peut varier, nous dit-on, entre 10 à 300 mégawatts, ce qui est finalement assez conséquent. Alors il y a de plus en plus de projets qui voient le jour, c'est ça qui est important, aux États-Unis, Japon, Chine, Inde, Russie. Il y en a peu d'entre eux qui sont encore aboutis, la plupart demeurent encore au stade de laboratoire. En France, il y a quelques projets qui existent, notamment les concepts FlexBlue et Nuvard, qui sont soutenus notamment par EDF et le Commissariat à l'énergie atomique. Ce sont des projets qui sont déjà bien avancés. À noter notamment que le plan de relance français prévoit un budget de 170 millions d'euros pour accélérer justement la recherche sur ces petits réacteurs modulaires, ces fameux SMR, parce que dans les années à venir, ils vont avoir un rôle important à jouer sous diverses formes dans la lutte, comme je vous le disais, contre les gaz à effet de serre et dans la volonté du grand public de disposer d'une électricité décarbonée. Les SMR, on suivra cette technologie au cours de cette émission, bien sûr, parce qu'on voit très bien qu'on est maintenant à un stade quasi abouti. Il y a parfois quelques prototypes qui sont présentés dans certaines expositions un petit peu scientifiques. Alors, je parle d'un temps où il y en avait, on va dire, mais en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de laboratoires du monde entier qui travaillent sur ce sujet-là, les fameux SMR. Bien sûr, c'est un sujet qu'on évoquera prochainement parce que ça va être l'avenir aussi de ce défi qu'il va falloir réussir à mener, bien sûr. Let them measure out the room, the dimension, the effect. Let them formulate the state of each and every bit. Let them price and calculate what and what is not. Let them choose and demonstrate what they have and haven't got. And I'll say, oh, whoa, I don't know. Oh, oh, I don't know. If I could open up my chest, pour out of myself, and in a corner I should rest. Rain on a shell that I'd be soaked up by roots of mountaintops to find a leaf spoken out of the light that someone drops and say, oh, oh, I cannot. Oh, oh, I cannot. Robin, if only
state of each and every bit. Let them price and calculate the on what is not. Let them choose and demonstrate what they have and haven't got. And I say, oh, oh, I don't know. Might I then will come next to you without the fear of running after? Might I talk when I'm talking through? Then I'll be fast. I'm just out to stand with you, asking for my clothes. No more shall I sing for you, but no, 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 no.
Teenage Spirit Norm, c'était Sophie Unger sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis sur le 94.9 pour ceux qui nous suivent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, soit en direct, soit en différé grâce au podcast. Je vous souhaite un bon appétit si vous nous écoutez en direct. On parle de science et on parle un peu d'art. C'est pas souvent qu'on parle d'art et science dans cette émission. Et là, cet article de Futura est assez intéressant parce qu'on va parler de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci fait rêver. On se souvient qu'en 2019, c'était le 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci. Il y avait une exposition qui s'était tenue au Louvre. Donc, on a vraiment une espèce de fascination pour Léonard de Vinci. Une fascination qui n'est pas morte, même en ce début du 21e siècle. Et ce qui est assez intéressant dans cet article de Futura, c'est cette enquête qui est menée par des chercheuses du CNRS, du CEA et de l'Institut de recherche de chimie de Paris. Et ces chercheuses ont réussi à mettre fin à une affaire qui date du début du XXe siècle et qui concernait un buste de cire montrant la déesse Flora, une ancienne divinité d'Italie, enfin une ancienne divinité romaine. Le rôle principal consistait à protéger la floraison des céréales et des arbres fruitiers. Et le Prussien Wilhelm von Bode le découvre en 1909 dans une galerie londonienne, va l'acquérir pour le musée de Berlin et il est convaincu qu'il s'agit d'une œuvre de Léonard de Vinci. Mais très vite, il y a une controverse qui naît à ce sujet. Il y a le fils d'un sculpteur anglais, le sculpteur Richard Clocq-Lucas, qui ne tarde pas à faire éclater une bombe en déclarant que ce fameux buste de Flora est en fait une œuvre de son père qui a été réalisée en 1846, donc de façon beaucoup plus récente. Et il dit qu'il est facile de le prouver parce qu'il affirme que ce buste est creux et qu'il contient des objets en papier et en bois qui datent du 19e siècle. Les vérifications faites, c'est bien le cas. Mais le Prussien qui avait découvert ce buste et qui considère que c'est une œuvre de Léonard de Vinci et les conservateurs du musée de Berlin se refusent à en tirer la conclusion que ce n'est pas malgré tout initialement l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors, il y a une technologie qui permet d'apporter une réponse, c'est la méthode de la datation au carbone 14, une méthode qui a été découverte par William Libby en 1949, ce qui lui vaudra notamment le prix Nobel de physique en 1960. Mais le cire du buste de Flora, c'est un mélange de différentes substances. Il y a un peu de cire d'abeille, mais il y a surtout de ce qu'on appelle du blanc de baleine. C'est une espèce de substance blanche présente dans la tête de certaines baleines, comme le cachalot, et qui contient des cires et des triglycérides. Alors, c'est organique, bien sûr, cela, parce que ça contient du carbone, mais ça reflète plutôt le carbone 14 de l'océan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement considérer que le carbone que l'on a dans ce blanc de baleine est nécessairement nous permet de dater grâce à cette technologie du carbone 14. Ce contenu est variable d'une région à l'autre. Il s'écoule un temps plus long entre la production de ce carbone 14 par des neutrons qui sont issus de façon indirecte des rayons cosmiques qui entrent en collision avec les noyaux d'azote dans la haute atmosphère. Bref, on ne peut pas vraiment s'en servir simplement pour faire les datations selon la même chronologie que pour d'autres choses. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on avait différents sabliers, on ne sait pas trop lequel donne la bonne heure, en fait, la bonne date. Et donc, du coup, on ne peut pas nécessairement se baser sur cette technologie du carbone 14. Donc, on va essayer d'utiliser une autre technologie, une technique moderne de caractérisation et de datation des matériaux. C'est Lucille Beck et ses collègues Ina Reich et Ingrid Caffi qui l'expliquent dans un article publié début mai dans le journal Nature et qui explique justement cette technologie qui va offrir une solution pour enfin apporter la réponse. Il fallait pour cela se baser sur d'autres œuvres de Richard Koch-Lucas qui sont visiblement elles aussi fabriquées avec du blanc de baleine et probablement également avec de la cire d'abeille. Donc on s'est dit qu'on va prendre des œuvres de cet artiste du 19e siècle et justement d'avoir une détermination des composants de la cire, de son origine marine, de son origine terrestre et justement essayer d'avoir grâce à cette technique une information un petit peu plus précise. Donc il y a un communiqué du CEA au sujet du travail de ces trois chercheuses qui a été diffusé et du coup on apprend que la datation finale des échantillons a été réalisée au laboratoire de mesure du carbone 14, c'est à Saclay, donc c'est la région parisienne. Et on utilise pour cela une technologie, nous dit-on, de spectrométrie de masse par accélérateur. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. En tout cas, cette technique permet d'avoir des résultats. Et ces résultats ont validé une hypothèse de départ, à savoir que les cires utilisées pour le buste de Flora, que l'on attribue au départ à Léonard de Vinci, et les cires qui ont été utilisées dans des œuvres de cet artiste sculpteur du 19e siècle qui s'appelle Richard Koch-Lucas, eh bien finalement on se rend compte qu'elles ont à peu près la même origine. En conclusion, les âges de ces cires qu'on a retrouvés sont compris entre, nous dit-on, 1704 et 1950. Donc l'échelle est assez large. Mais en tout cas, il est impossible que le buste de Flora soit de Léonard de Vinci. Voilà comment la science apporte une réponse à l'art. Et c'est assez rare dans cette émission. C'est ça qui est intéressant également.
Every question you took the time. to each other. I bet when I leave my body for the sky, the wait, the wait will be worth it. I love it all so much. I call, I want you back.
Le Caldatives avec Airplanes sur l'antenne de Graphite. On va parler des requins. On a parlé des baleines tout à l'heure, on va parler des requins. En ce moment même, il y a Nukumi, c'est un grand requin blond de plus de 5 mètres de long, on pèse 1,6 tonnes quand même. Et Nukumi est en train de traverser l'Atlantique. C'est une femelle, elle est probablement âgée d'une cinquantaine d'années. Elle a été identifiée en octobre dernier lors d'une campagne de balisage de requins blancs dans les eaux du Canada. Jamais les scientifiques n'avaient identifié un requin aussi imposant et âgé dans la région. Sa balise GPS transmet régulièrement sa position et depuis le début du mois de mars, eh bien Nukumi s'est lancée dans la traversée de l'Atlantique depuis la mer des Sargasses. Les données les plus récentes la situent au-delà de ce qu'on appelle la dorsale médio-atlantique et personne ne peut prédire sa destination. Est-ce qu'elle va continuer tout droit ou jusqu'à atteindre la Méditerranée ou est-ce qu'elle va changer de cap? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grands requins blancs sont des grands voyageurs. Il y a certains individus qui ont parcouru jusqu'à 10 000 km en seulement 9 mois. Oui, effectivement, c'est quand même des grandes distances. La raison de leur déplacement reste mystérieuse et la façon dont ils se repèrent aussi. Sur les tracés GPS de Nukumi, eh bien on s'aperçoit qu'elle voyage presque en ligne droite. Et selon une étude parue début mai dans la revue Current Biology, eh bien les requins sont capables de se guider apparemment selon le champ magnétique terrestre. Tout ça grâce à des ampoules de Lorenzini qu'elles ont sur la tête. C'est notamment au niveau des requins, au niveau des raies. C'est une sorte de boussole naturelle qui leur permet de ressentir les variations de champs électromagnétiques et également les variations de température. Et donc, dans leur étude, eh bien, les scientifiques ont étudié le comportement de 25 requins marteaux capturés dans les eaux de Floride en fonction du champ magnétique auquel ils étaient soumis. On a testé trois conditions. La première, c'était de reproduire l'intensité et l'angle de la ligne de champ de leur lieu de vie. Donc, en clair, on leur met un petit peu un champ magnétique de leurs conditions normales, entre guillemets. La deuxième condition, c'est de reproduire celle d'une zone située 600 km au sud. Et la troisième, c'est 600 km au nord. Donc, on met en place ces trois conditions. Et on regarde quoi ? C'est que si les requins utilisent effectivement le champ magnétique pour se repérer, eh bien les scientifiques s'attendent à voir les animaux nager plus souvent vers le nord pour ceux qui sont assez, qu'on a mis dans des conditions où ils sont plus au sud. Je reprends ma phrase, que personne n'a compris ce que j'ai dit. Comme vous avez trois conditions mises en place, une condition normale entre guillemets, deux, on fait en sorte que le champ magnétique qu'on leur soumet est le même que celui qui est 600 km plus au sud, et d'autres 600 km plus au nord, ils sont au même endroit au départ. Et ceux pour lesquels on considère que le champ magnétique est 600 km plus au sud, on se dit qu'ils vont avoir le réflexe de remonter vers le nord. Et c'est ce qu'ils font effectivement parce qu'ils ressentent bien des conditions électromagnétiques qui fait qu'ils se considèrent être dans une zone plus au sud. Donc, ils vont avoir le réflexe de remonter vers le nord. Et on se dit que ceux qui sont mis dans une condition qui leur fait mettre beaucoup plus au nord qu'ils ne devraient l'être, on se dit, bah, eux, ils vont aller dans l'autre sens. Ils vont plutôt revenir un petit peu vers le sud parce qu'ils sont considérés trop au nord. Eh bien, en fait, non. C'est-à-dire que ceux qui se considèrent dans le sud remontent bien au nord, mais ceux qui sont considérés dans le nord, en fait, ils restent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout le réflexe de revenir un petit peu dans une zone plus au sud. C'est en fait quelque chose qui explique que c'est un phénomène inné et non pas de l'apprentissage pour ces requins marteaux. C'est un phénomène comparable qui est observé pour les tortues marines. Des expériences qui indiquent tout de même que les requins cèdent quand même du champ magnétique terrestre pour se déplacer, mais que du coup, s'ils sont dans des conditions qu'ils n'ont pas connues, ils ne vont pas être capables de pouvoir réfléchir et réagir comme il le faudrait. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir que les requins utilisent le champ magnétique terrestre pour pouvoir se repérer dans la majorité des cas et en tout cas de pouvoir poursuivre leur chemin. Donc, pour l'instant, on ne sait pas où va atterrir Nukumi, mais en tout cas, on considère qu'elle est en train de se baser sur le champ magnétique terrestre pour pouvoir se guider. C'est peut-être finalement un GPS quasi plus fiable qu'on le souhaiterait.
She says, dance with me is the last waltz, but we never did the first one. I say, I don't know you, don't recognize you, not even the beginning of the first step we've met. Oh, it's a strange night. Oh, it's a strange light. Don't you remember all the crazy Charlestons, all the crazy nights we had with Cole Porter? She says, Janis Joplin, the Beatles, Rolling Stone, Cure, Blue Ostia, Cole Can, Velvet Underground, and Kellas. It's a strange night. Oh, it's a strange light. And now we are dancing in the big rose ballroom with all these people very impressed. They are so beautiful, such a beautiful couple. Such a beautiful story. Believe me, that's so crazy. Oh, it's a strange light. Oh, it's a strange night.
C'était Abdonkled Myself, je l'ai dit d'une seule traite, je suis fier de moi avec Waltz sur l'antenne de Graphite. Pour se quitter, on va... Alors, on a dit que les requins se repéraient grâce au champ magnétique terrestre. Ok, très bien. Sauf que le réchauffement climatique, apparemment, modifie l'axe de rotation de la Terre. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique n'est pas constante. Les scientifiques tentent d'abord de comprendre quels sont exactement les phénomènes à l'origine de cette variation. Mais la façon dont l'eau se distribue à la surface de la Terre semble être un facteur important. Et aujourd'hui, des chercheurs de l'Académie des sciences chinoises nous apprennent que la fonte des glaciers due au réchauffement climatique anthropique en cours a suffisamment redistribué les eaux pour accélérer le déplacement du pôle Nord, qui le fait basculer du sud vers l'est au milieu des années 90. Et pour en arriver à cette conclusion, eh bien les chercheurs ont calculé la perte totale en eau stockée sur les terres dans les années 90. Ils se sont appuyés sur des données de fonte des glaciers et aussi des estimations du pompage des eaux souterraines. Et les pertes d'eau des régions polaires font figure de principal moteur de cette dérive du pôle Nord. Une dérive dont la vitesse moyenne s'accélère de plus en plus. C'est une fonte de plus en plus rapide de la glace avec le réchauffement climatique qui peut peut-être expliquer cette accélération de cette dérive. Alors, pas totalement, ça explique pas la totalité de cette dérive, nous dit-on, même si les chercheurs n'ont pas totalement poussé les investigations et leur analyse jusque-là. En tout cas, ils estiment que l'écart restant pourrait résulter de perturbations dans les zones non polaires en raison notamment du pompage non durable des eaux souterraines, par exemple pour l'agriculture. Bref, des résultats qui montrent que, selon les chercheurs, les activités humaines peuvent avoir un impact sur notre Terre, allant jusqu'à déplacer son axe de rotation. Alors, c'est vrai que ça commence à devenir inquiétant tout ça. Alors, ça n'a pas de réel effet sur notre vie quotidienne parce que l'opération pourrait tout au plus faire évoluer la durée de nos journées de seulement quelques millisecondes. Donc effectivement, ça ne va pas tout perturber. Il n'empêche que c'est encore une illustration de l'impact de ces activités humaines sur la vie de notre planète et qui se retrouve de plus en plus perturbée. Toutes les semaines dans cette émission, on parle de quelque chose qui illustre encore cette dérive à laquelle nous assistons de façon un peu l'impression impuissante. Mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle illustration qu'on apporte dans cette émission. C'est la fin de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. Je ne sais pas ce qui m'arrive. On fera toujours le point sur l'actualité scientifique. Et on essaiera de répondre à cette question que je vous pose aujourd'hui. Comme c'est la fin de cette émission, on n'a pas le temps d'aborder cet article, mais en tout cas, on l'abordera la semaine prochaine. Combien y a-t-il de bulles dans une chope de bière ? Ah ! Mais il y a des scientifiques qui ont cherché et qui ont calculé. Et on verra la réponse la semaine prochaine. Combien de bulles comporte une chope de bière à consommer avec modération, bien évidemment. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Tout de suite, la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. Merci de votre fidélité. Bonne journée. À samedi prochain, 12h.